Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin.
Il était une fois un pêcheur qui vivait tout seul dans sa maison isolée en haut de la falaise. De temps en temps, il allait au village, il s'arrêtait au café, et puis il rentrait chez lui, et puis il partait sur sa barque et il allait poser des casiers et il ramassait des homards, des crabes. Et un jour, il avait déposé ses casiers, il rentrait chez lui, il était dans sa barque, il ramait. Il est passé devant la petite crique où il passait d'habitude. Puis il s'est dit, c'est quoi ça? C'est des rochers? Mais il n'y a pas de rochers là d'habitude. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a ramé un petit peu, il a avancé et il a vu une tête de phoque. Une deuxième, trois, quatre, cinq, six, sept phoques qui sont sortis de l'eau, qui ont nagé jusqu'à la plage et qui sont traînés sur la plage. Et ce qu'il a vu ensuite, c'est que des peaux de phoque sortaient sept jeunes femmes, plutôt jolies. Les jeunes femmes, elles ont couru vers le fond de la plage où il y avait une grotte et elles sont entrées dans la grotte. Le pêcheur, il a ramé jusqu'à la plage, il est descendu de sa barque, il l'a calé dans les rochers et puis tout doucement, il est allé voir les peaux. Ah oui, c'était bien des peaux de phoque et il a marché jusqu'à la grotte, il est entré et il a vu les sept filles qui dansaient, qui riaient, qui chantaient. Il est ressorti, il est allé jusqu'au pot, il en a pris une. Il est allé jusqu'à sa barque, il a mis la peau dans un sac, il a caché le sac dans sa barque et puis lui, il s'est caché derrière les rochers, il a attendu. Oh, il a attendu un bon moment. Et quand la nuit est tombée, elles ont fini par sortir. Elles ont remis leur peau, ah oui, toutes sauf une. Les six sont reparties dans la mer et il y en a une qui était là, qui tournait en rond sur la plage et puis qui s'agitait, qui piétinait et lui, il est sorti. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, jeune fille, toute seule, là, sur cette plage, à cette heure-là? Je suis perdue, je ne sais plus où je suis, je ne peux pas rentrer chez moi. Ah, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. Elle l'a regardé, puis elle a hoché la tête et elle a dit d'accord. Alors, ils ont poussé la barque dans la mer et tous les deux, ils sont montés dedans et lui, il a ramé et il est arrivé jusqu'à chez lui. Ils sont descendus de la barque et ils sont montés jusqu'à sa maison. Là, il lui a donné à manger et lui a dit, tu sais, moi je vis tout seul ici. Il y a de la place, si tu veux, tu peux rester avec moi. Elle a dit d'accord. Elle est allée se coucher et pendant ce temps-là, il est redescendu jusqu'à sa barque. Il a pris le sac. Il a emmené le sac dans son atelier de pêcheur. Il a ouvert une caisse en bois. Il a poussé ce qu'il y avait là, il a mis le sac tout au fond, il a recouvert de filets et de flotteurs, et puis il est rentré chez lui. Et le temps a passé, et le pêcheur était heureux avec sa nouvelle femme. Ils ont même eu un enfant au bout d'un an, et puis au bout de deux ans, un deuxième enfant. Oh, il était content, le pêcheur. Un garçon, une fille. Par contre, sa femme, souvent, elle partait le long de la mer, et puis elle avait toujours un regard triste. Alors lui, il faisait ce qu'il pouvait. Il lui apportait des cadeaux, il s'occupait de beaucoup de choses, mais elle avait toujours ce regard triste. Et puis elle sortait pas beaucoup. Elle allait pas souvent au village, elle préférait être dehors. Et un jour, quand le garçon a eu 7 ans, il est allé dans l'atelier de son père, comme il faisait parfois, et il prenait les objets qu'il y avait là. Oh, il y avait une belle étoile de mer, elle était grande. Qu'est-ce qu'elle était grande! Et puis là, à côté, il y avait un coquillage tout rose. Et puis, il y avait cette caisse en bois. Alors, il a ouvert la caisse et il a sorti les filets, les flotteurs. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ce sac? Il a pris le sac, il l'a retourné. Puis, il y a cette chose bizarre qui est tombée par terre. Et c'était une peau, mais c'était tout sec, c'était tout plié, très, très, très sec. Et il l'a retourné et une tête de phoque, c'est une peau de phoque. Tiens, c'est curieux. Bon, il l'a remise dans le sac et il a remis le sac dans la caisse et puis il est sorti, il est retourné à la maison. Et il y avait sa mère qui était là, il lui dit alors mon garçon, tu t'es bien amusé? Oh bah oui, il y a tellement de choses dans l'atelier de papa. J'ai vu une étoile de mer, un coquillage. Et puis tu sais quoi? J'ai vu une peau de phoque. Qu'est-ce que tu as vu? Bah une peau de phoque toute sèche. Tu veux venir voir? Non. Non, je ne préfère pas. Bon, puis ils sont passés à autre chose. Mais les jours suivants, la femme, elle tournait dans la maison, elle regardait l'atelier, et puis elle avait l'air encore plus triste que d'habitude. Son mari lui dit, tiens, il y a la foire, là, à la ville. On y va demain. On y va tous les trois. Non, j'ai pas envie. Vas-y, toi, emmène les enfants, mais moi, tu sais bien, j'aime pas la foule. Je vais rester là. Le lendemain, le père est parti avec le garçon et la fille. Et puis la femme, elle est restée dans sa maison. Elle tournait en rond. Et à un moment, elle s'est dit, bon, bah, je vais faire la couture. Alors, elle a pris une aiguille, du fil, et puis un apron à broder. Et puis, ça l'a agacée. Alors, elle a rangé ça et elle s'est dit, bon, bah, je vais refaire un gâteau. Elle a sorti un bol, de la farine, des œufs. Elle a commencé à mélanger, puis ça l'a agacé, alors elle a touché par terre, et puis ça s'est cassé. Elle a ouvert la porte de la cuisine, puis elle a regardé du côté de l'atelier, et puis elle a marché jusqu'à l'atelier. Elle a fait demi-tour, et puis non, elle est revenue. Elle est revenue jusqu'à la porte, elle a posé sa main sur la poignée de la porte, et puis elle a ouvert. Elle a poussé la porte. Et tout de suite, elle a vu la caisse. Elle a vu la caisse, elle l'a ouverte et elle a pris le sac. Elle a retourné le sac. Et sa peau est tombée par terre. Ah oui, elle était bien sèche, mais c'était bien sa peau. Toute pliée, toute desséchée. Elle l'a serrée contre elle, elle est sortie. Elle a pris le chemin le long de la falaise, et elle est descendue sur la plage. Elle s'est avancée sur les galets, sur le sable et jusqu'aux vagues. Et puis là, elle s'est agenouillée et elle a trempé sa peau. Elle l'a ressortie, elle était encore sèche. Elle l'a trempée à nouveau. Et puis là, elle était un petit peu moins sèche. Alors elle l'a trempée encore et quand elle l'a sortie, sa peau, elle était souple, elle était luisante. Elle l'a regardé. Et puis elle l'a enfilé. Et elle a plongé dans la mer. Le soir, quand le père est rentré avec ses deux enfants, la maison était toute noire. Pas de lumière. La porte était entrebâillée. Lui, il avait sa lanterne. Il a éclairé. Il a vu par terre le bol cassé. Et puis, ils sont ressortis, ils ont vu que la porte de l'atelier était ouverte. Ils sont allés jusque-là et la porte, il a franchi et il a vu tout de suite le sac par terre. Alors, il a dit à ses enfants, il faut que je vous explique quelque chose. Ils sont rentrés à la maison et le pêcheur a expliqué à ses enfants comment il avait rencontré leur mère. Il leur a dit maintenant, elle est retournée parmi les siens. Ils ne l'ont jamais revue. De temps en temps, les enfants, quand ils se promenaient au bord de l'eau, ils apercevaient un phoque. Quant au pêcheur, lui, il a toujours fait bonne pêche. On dit qu'il était bien chanceux. Et les enfants ont grandi. Ils ont vécu leur vie. Et jamais ils ne se sont éloignés de la mer. Ils sont toujours restés auprès du rivage. Et ils ont vécu très heureux, très longtemps.
Stronger, she. for you. Go, leave, don't come back. No more am I for the taking, but I can't say that my heart's not aching, it's breaking in two. I remember days when we laughed a lot, those that weren't so good I soon forgot. We could sit and talk till words were coming out our ears, not just for days or weeks or months, but it's been years, and here they come, here come my tears.
Nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'émissions de Règlement de Compte autour du docteur Dominique Desmichel et de Marie-Christine Noubry, conteuse. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous abordons ce conte que vous venez d'entendre, La peau de phoque, d'une manière un peu spéciale, car docteur Dominique Desmichel, c'est la première fois que vous l'entendez, vous, ce conte.
Oui, tout à fait, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. J'adore écouter les contes, et puis là, en plus, c'est très agréable à entendre comme ça.
Marie-Christine, on est dans l'essence même du conte, c'est-à-dire l'improvisation.
Oui, parce que ce que je vous ai raconté, ce n'est pas un texte écrit. Et en effet, il arrive que d'une fois sur l'autre, il peut y avoir des petits changements. Enfin, changements, pas des gros changements, mais c'est vivant au moment où on le raconte.
C'est vivant au moment où on le raconte, effectivement. Et j'en suis témoin qu'il y a eu des petits changements. Et ces petits changements peuvent ouvrir de grandes perspectives. Mais ça, nous le verrons avec le docteur Dominique Desmichel. Car rien n'est anodin dans un conte, mine de rien.
Non, même ce qu'on pourrait penser qui jaillit comme ça, en fait, est certainement lié à beaucoup de choses. Et en creusant un petit peu, on voit plus clair.
Docteur Dominique Desmichel, cette partie d'improvisation, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, j'aurais envie de dire que à nos auditeurs, d'abord, c'est que les contes, c'est absolument génial, et que les contes, faut pas commencer à réfléchir. C'est-à-dire, juste après, on va essayer de réfléchir, mais c'est peut-être vraiment le genre de truc qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est comme un poème, si on commence à... Moi, je me souviens, en classe de terminale, on avait des poèmes de Victor Hugo, voilà, à travailler. Mais c'est absolument terrifiant, parce que c'est comme si on cassait la baraque. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, au fond, d'essayer de casser la baraque, mais pas simplement de faire un travail de déconstruction, mais un travail de construction aussi après, pour montrer que, dans l'arrière-plan du conte, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire et que surtout, ça parle de nous.
Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire un peu le contexte de ce conte. Marie-Christine, je compte sur vous pour nous en dire un peu plus. C'est un conte qui vient d'Islande.
Oui, c'est un conte islandais, mais on retrouve des versions en Écosse et on retrouve aussi des versions en Irlande, donc effectivement dans une aire géographique du nord de l'Europe, quoi, avec des phoques.
Et est-ce que ça met en scène ces fameuses Selkies ?
Oui, les femmes phoques, c'est les Selkies, le nom écossais, pour ces créatures qui viennent de la mer et puis qui peuvent, une fois sur Terre, avoir une forme humaine, mais qui retournent le plus souvent dans leur élément d'origine, c'est-à-dire la mer.
On pourrait faire un parallèle peut-être avec les sirènes ?
Oui, les sirènes. Chez nous, on a Mélusine. Mais en Irlande, il y a aussi beaucoup d'histoires de sirènes qui se retrouvent sur la côte. Un homme vient les voir, la sirène va rester avec l'homme. Ils vont avoir des enfants et au bout d'un certain temps, la sirène aussi retourne dans son élément d'origine.
On voit une première approche, ça va être une histoire d'amour,
oui.
De séduction, mais d'amour impossible peut-être.
D'amour impossible, complètement, oui.
Docteur Dominique Desmichel, ces créatures qui sont mi-humaines, mi-animales, ça remonte à la nuit des temps. On en trouve bien sûr dans toutes les mythologies. Qu'est-ce qu'elles signifient en elles-mêmes ?
Mais l'usine, c'est un monde entier. Enfin, moi, c'est très vieux dans ma tête, l'histoire de Mélusine, mais on sait bien que ça va jusqu'en Crète, hein, je crois, hein, puisque les Lusignans, en fait, ils se sont. Toute la famille des Lusignans s'est installée en Crète, si ma mémoire est bonne. Pour Mélusine, elle est à la fois une sorte de femme serpent sirène la nuit et une femme normale le jour, hein, il me semble, si ma mémoire est bonne.
Sur la nuit, je sais plus, ce dont je me souviens, c'est qu'elle se baigne une fois la semaine et qu'il ne faut
Oui.
pas que son mari vienne la voir quand elle est
Voilà.
sous forme de sirène. Et bien sûr, il va enfreindre
Oui.
la consigne.
Voilà. Il y a quelque chose autour de la curiosité. Et on voit bien ici que la curiosité, c'est du côté des origines, hein, ici. Hein.
Alors moi j'ai fait mes petites recherches aussi par rapport à la mythologie grecque et le phoque est lié à Protée. Ça vous dit quelque chose, docteur Dominique Desmichel, ce dieu qui est en charge justement d'un troupeau de phoques qui sont d'anciennes nymphes transformées en animal par Poséidon. Et la particularité de Protée, c'est qu'il lit l'avenir et il se métamorphose. Et pour lui parler, il est très avare de sa science. Il faut le surprendre lorsqu'il fait la sieste à midi dans une grotte avec ses phoques. Et c'est étonnant comme quoi le lien est fait avec notre conte.
Oui, c'est en fait des histoires qui se transforment, quoi, qui se transforment au fil du temps, qui prennent différents aspects, mais oui, là, c'est complètement ça, quoi.
Oui. On pourrait presque entendre quelque chose aussi du côté du divin, parce que Protée, c'est celui qui est pour Dieu aussi, hein, Protéo. Donc, voilà, il y a sûrement quelque chose de tout à fait riche là-dedans, et on sent bien en tout cas qu'on est du côté de Poséidon, hein, on est quand même, ou de Neptune, enfin, suivant les Grecs ou les Latins, mais on est en tout cas du côté de la mer, hein. Voilà, la mer dont il faut se rappeler que même s'il y a une homophonie entre MER et MER, accent grave RE, il y a quelque chose qui est fondamentalement relié, puisque la mer MER ou la mer accent grave RE, ce sont des lieux liquidiens, ce sont des lieux salés, et c'est le lieu des origines, hein, c'est-à-dire il y a 3,7 ou 3,8 milliards d'années, la vie est apparue dans l'eau avec les premières algues bleues, puis ensuite les premières. Les protozoaires, puis ensuite un premier être unicellulaire, puis pluricellulaire. Voilà. Et nous-mêmes, dans notre phylogénèse, c'est-à-dire dans le développement de notre corporéité, puis ensuite de notre individualité, on est toujours dans la mer. Donc on est sorti de la mer. Et dans les rêves, par exemple, le plus souvent, l'inconscient est associé à la mer, ou la mer MER est associée à l'inconscient, comme la forêt, c'est-à-dire ces lieux virginaux, originels, ces lieux dans lesquels la nature est première et la culture n'est pas arrivée, de ces lieux qui est le lieu du jaillissement, le lieu de la créativité. Voilà. Et puis, la terre, c'est le lieu où nous vivons. Nous ne sommes pas des animaux des eaux, de l'eau en tout cas, ni des airs, on est des animaux de la terre. Et l'espace intermédiaire, c'est l'espace entre le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire c'est la plage, et dans notre rêve, c'est la crique.
Et c'est le phoque aussi qui est un animal mammifère qui bien sûr est plus à l'aise dans l'eau, mais qui va venir sur Terre pour s'accoupler entre autres et pour se prélasser au soleil. Docteur Dominique Desmichel, alors je vous ai vu prendre énormément de notes pendant j'allais dire la lecture, mais non, pendant que Marie-Christine nous racontait cette histoire. Quel est le premier fil que vous aimeriez tirer pour démêler cet écheveau?
Moi, j'ai bien envie, avec nos auditeurs, de reprendre un tout petit peu l'histoire. Dans l'histoire, on pourrait dire, il y a d'abord ce personnage principal, et je vous propose qu'on n'oublie pas de reprendre, peut-être vers la fin, ce conte en se disant que ça raconte avant tout l'histoire de cet homme. Mais en tout cas, c'est un homme, c'est un pêcheur, il est seul, il habite dans une falaise, c'est quand même pas un lieu très très habitable, on pourrait dire. Le village est loin, il y va, donc il est un peu, c'est un peu un anachorète ou un ours des cavernes ou un peu un sauvage, voilà. Bon. Et puis il fait son boulot, il a sa barque, il a ses casiers, il a ses homards, et voilà. Et puis à un moment, puisque vous le convoquiez au fond avec Protée, il y a une surprise. Il se passe quelque chose, hein? Et ce quelque chose, c'est dans une articulation qui est un petit peu étonnante, et évidemment dans un récit, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon c'est pas très intéressant. Il y a d'abord des rochers qu'il ne connaît pas, puis ensuite des têtes de phoques, puis ces jeunes femmes qui arrivent et qui ensuite vont se retrouver dans une grotte. J'aime bien l'idée de la grotte parce que elle renverrait à quelque chose qui serait là aussi d'une sorte ou de ventre maternel ou de contenant comme lieu de fécondité et de développement. Mais j'aurais envie aussi de dire que quand même, je sais pas, faire l'amour avec une sirène, c'est quand même pas très très simple. Hein. C'est-à-dire, la sirène, elle a le haut du corps qui est celui d'une femme, mais le bas du corps qui est celui d'un poisson, c'est-à-dire au fond, dans ce qui en est d'une sexualité incarnée, hein, qui se joue dans un corps avec son corps symbolique, mais aussi le corps charnel, il y a quelque chose qui n'est guère possible. C'est pour ça qu'on sent bien qu'il y a, une, comme vous l'avez dit, une histoire d'amour qui peut commencer, mais que ce n'est pas très très simple, puisqu'il va falloir qu'il y ait une rupture. Et la rupture, on la sent, comme si au fond... C'est cette jeune femme, parce qu'on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire sur la plage? Elles ont bien... voilà. Comme si elles étaient, elles, tentées par quelque chose d'une vie terrestre et qu'elles sentaient que pour accéder à cette vie terrestre, il fallait qu'elles lâchent quelque chose, qu'elles fassent une vraie mue, au fond. Et la mue, c'est quand même perdre une peau antérieure pour retrouver une autre peau. Donc moi, j'aime bien les voir arriver ici. On pourrait dire... tenté par la culture ou tenté par la rencontre avec le monde, tenté par la rencontre avec, avec les hommes, au fond.
En tout cas, de manière inconsciente, car la femme phoque, le fait d'avoir perdu sa peau, ça la gêne quelque part.
Oui, pour moi, je dirais que ça la diminue un peu, parce qu'effectivement, elle va danser dans la grotte, elle va chanter, mais après, elle ne peut plus rien faire. Après, elle a envie de retourner chez elle, donc c'est un jeu dangereux, on va dire.
Si on reprend l'analogie avec l'animal, il est quand même mieux dans l'eau, le phoque lui-même, que sur Terre, même s'il peut vivre sur Terre.
Passage ouais. Un petit peu sur Terre, ouais. Mais oui,
son élément, c'est l'eau.
C'est pour ça que moi, je verrais bien que quand même, ces jeunes femmes... elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes une sorte, si on pense que ça nous parle à nous, hein, humains, elles ont elles ont le soi à l'intérieur d'elles-mêmes qui est vivant et qui les invite, au fond, à quitter leur nature instinctuelle, c'est-à-dire leur nature animale, hein, leur peau de phoque, pour devenir des femmes, au fond, ce qu'elles ne sont pas, il me semble. Elles ne sont pas des femmes. Et donc, elles viennent habiter... la terre, c'est-à-dire le lieu des humains, le lieu de la culture, le lieu de l'altérité, le lieu de « il y a des hommes et il y a des femmes », elles vont dans cet espace de gestation qu'est la grotte et elles expérimentent quelque chose qui a priori est joyeux, festif. Hein, c'est-à-dire on n'est pas dans un Apollinien un peu coincé où chacun a son rôle et sa nature, hein, on est devant la nudité de l'homme telle que Prométhée et Épiméthée les ont rencontrés, c'est-à-dire il n'y a plus de dons à donner aux hommes. Pourquoi ? Parce que, comme disent les philosophes, ils n'ont pas de nature intérieure. Il faut qu'ils... la vache, elle est faite pour ruminer et puis pour faire du lait et avoir des petits veaux. L'être humain, il naît tout nu et il faut qu'il trouve sa propre nature. Donc c'est comme si ces femmes, venant d'un inconscient maternel collectif, étaient fascinées, attirées, avec les risques que ça représente, et comme vous le dites, par autre chose, et moi j'aurais envie de dire, c'est l'histoire en tout cas là qu'il raconte, par la rencontre avec un homme.
Alors cette rencontre, on pourrait croire qu'elle part sur des bases assez malsaines, parce que le pêcheur, ça commence par une tromperie.
Oui.
Marie-Christine, pouvez nous rappeler...
Mais oui, parce qu'il voit ces jeunes femmes qui laissent leur peau, et lui, il va en voler une quand même. Il vole une peau pour la cacher, et ce qui va lui permettre de rester avec cette belle jeune femme. Et il lui dira jamais que c'est lui qui a pris sa peau et qui l'a cachée pour qu'elle reste.
Docteur Dominique Demichel, est-ce qu'on peut entamer une relation déjà sur des bases de mensonges?
C'est difficile. Pour moi, ici, je ne pense pas qu'il fasse une faute. Il me semble que s'il y a quelque chose du côté d'un manque, après, d'une faille, je dirais, c'est à mon avis plus tard. Pour deux raisons. La première, c'est que, vous savez, surtout dans la radio comme ici, on peut se rappeler que tu quitteras ton père et ta mère. Donc, je pense ici que lui, il est vraiment dans une position masculine, on pourrait presque dire un petit peu paternelle, c'est-à-dire il y a cette femme qui est encore dans un espace inconscient, c'est-à-dire l'espace de l'eau et de la mer, ME accent grave RE comme MER, et au fond, il lui dit, j'interviens, je te sors de ta mère et je te confisque ta peau. C'est peut-être pas très 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 élégant, mais j'allais dire, il la force pas, hein, puisque dans le dialogue que vous nous avez raconté, Marie-Christine, il lui dit, voilà, je suis tout seul, est-ce que tu veux rester chez moi? Et elle répond ok. Alors peut-être vous allez me dire, elle a pas trop le choix.
En effet, je pense qu'elle a pas beaucoup de choix. Et c'est pour ça qu'elle accepte. Mais oui, il y a quand même mensonge, enfin il y a omission, quoi. Après.
Dans le contexte exact du récit, parce que moi je suis très attentif aux petits détails, c'est important de noter que lui, il va chercher la peau et il la cache après qu'elle ait dit oui. Il ne le fait pas avant.
Ah si, il l'a fait avant.
Ah non, dans votre récit.
Il a caché la peau dans sa barque.
Oui, il l'a caché dans la barque.
Il l'a caché dans la barque et quand il arrive auprès d'elle, parce qu'elle est toute seule sur la plage, elle ne sait plus quoi faire, et il ne lui dit pas « je sais où est ta peau ». Il lui dit « bah, t'es toute seule, qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux, viens avec moi ». Donc là, il la trompe, il a tromperie.
Oui. En tout cas, elle lui dit « je ne peux pas rentrer chez moi ». Lui, il lui dit « viens chez moi
oui. ».
C'est-à-dire, on sent bien que là, qu'il y a un autre espace à habiter. C'est-à-dire, il lui propose un autre espace de vie. Hein. C'est-à-dire, il est possible de vivre un autre espace relationnel que celui que tu connais. Et elle dit « d'accord ». Ils arrivent chez lui, ils déjeunent, il lui dit « je vis seul, est-ce que tu veux rester ?» Et elle dit « ok ». Donc, il y a une petite tromperie, mais est-ce que ce n'est pas le jeu juste de la fascination? C'est-à-dire, chaque homme dit à l'autre « regarde-moi, je suis ton prince charmant », c'est évident.
Ouais.
Et puis, elle lui dit « regarde-moi, je suis ta belle au bois dormant ». Et sur cette sorte d'illusion projective réciproque, on construit un amour, non?
Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Docteur Dominique Desmichel et Marie-Christine, une dernière question. On parle bien d'une femme folle, c'est-à-dire d'une femme plus ou moins nymphe, presque peut-être une semi-déesse. On va vers beaucoup de problèmes quand on s'attaque au monde surnaturel, quand même. Si on prend une lecture, dans le monde de l'imaginaire et dans le monde du conte.
Oui, parce que ce sont deux mondes séparés, même s'ils se rencontrent, il leur arrive de se rencontrer. Mais malgré tout, c'est un monde d'un côté, un monde de l'autre. Et en effet, quand on veut mélanger les deux, ça fait des étincelles et ça peut poser des problèmes. En général, ça en pose, oui. Mais c'est un peu le jeu, d'une certaine manière. C'est la confrontation de choses qui ne sont pas faites pour vivre ensemble.
Mais il faut que ça arrive.
Mais ça arrive, voilà, on ne peut pas faire autrement, sinon la vie, elle n'est pas là.
Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je crois que c'est important de se dire quand même que le pêcheur, il ne jette pas la peau, il ne la brûle pas, il ne la fait pas disparaître, il ne la renvoie pas dans la mer, hein, il pourrait l'acheter, voilà, ou il pourrait l'abandonner, elle pourrait sécher au soleil. Là, il la garde. Donc en même temps, il est le gardien de quelque chose, d'une mémoire antérieure, d'une mémoire plus archaïque en tout cas, de celle qui quand même à ce moment-là acquiert un statut, puisque vous dites dans votre récit sa nouvelle femme, hein, sa nouvelle femme. Et on voit bien que ça fait quelque chose, puisque au moins ça fait de la fécondité, puisqu'ils ont deux enfants.
Règlement de compte, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel et à Marie-Christine Loubry, conteuse, qui nous a raconté cette merveilleuse histoire. On se retrouve dans 15 jours pour poursuivre l'exploration de ce conte de la peau de phoque. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de Radio Grand Ciel.